Dites, comment va votre digestion ? Si c'est le bazar dans votre ventre, vous le savez, votre quotidien peut être fortement impacté. Et vous n'êtes pas seul, car près de 9 millions de personnes seraient concernées par des troubles fonctionnels intestinaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Notre partenaire aujourd'hui, le complément alimentaire Alflorex Plus, vous permet de retrouver un confort digestif et l'équilibre de votre flore intestinale. Ceci grâce notamment à la souche brevetée Bifidobacterium longum 356-24 qui contribue à l'équilibre de la flore intestinale, ainsi qu'à la présence de calcium qui favorise le fonctionnement normal des enzymes digestives. 85% des personnes déclarent se sentir mieux avec la prise d'Alflorex Plus et c'est l'un des probiotiques les plus recommandés pour la sphère digestive. Et pourquoi pas vous ? Le complément alimentaire Alflorex Plus est disponible en pharmacie et parapharmacie. Merci à eux de soutenir le podcast et place à votre épisode. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possible sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 110 dans lequel nous allons parler de la pire assiette pour ta digestion et ton microbiote. Je vous ai déjà fait un épisode sur ce que les bactéries de votre microbiote adorent manger. C'était l'épisode numéro 104 si vous ne l'avez pas encore écouté. Et je voulais compléter avec un autre épisode pour vous dire un petit peu la pire assiette que vous pourriez faire pour votre microbiote. Parce que c'est bien beau de voir ce que le microbiote adore manger, mais c'est important aussi de voir ce qui peut au contraire être néfaste pour notre microbiote. Parce que si d'un côté vous lui donnez des choses qu'il adore manger et qui vont nourrir votre microbiote et le chouchouter et faire en sorte qu'il reste équilibré, mais que de l'autre côté vous mangez des choses qui sont plutôt néfastes pour le microbiote, c'est dommage parce que ça fait un peu opération nulle. Donc voilà, autant savoir un petit peu les choses qui potentiellement sont à éviter ou en tout cas à limiter. Alors déjà, pour attaquer direct dans le vif du sujet, une assiette qui pourrait être un petit peu la pire pour votre microbiote, c'est une assiette qui ne contient aucun légume. Donc c'est-à-dire une assiette qui ne contient quasiment pas de fibres, ou en tout cas très peu, parce qu'il y a des fibres aussi ailleurs que dans les légumes, hein. Il y en a aussi dans certaines céréales, certaines légumineuses, voilà. Mais quand même, les légumes, c'est ce qui apporte le maximum de fibres pour nourrir les bactéries. Donc si jamais vous n'avez aucun légume, aucune fibre pour vos petites bactéries, du coup vous n'avez aucune nourriture pour elles. Donc imaginons vous mangez, qu'est-ce qu'on pourrait se dire, je sais pas, du poulet et des pommes de terre par exemple, sans aucun légume, du coup c'est pas l'assiette idéale pour votre microbiote. Encore que si vous avez fait cuire vos pommes de terre puis vous les avez fait refroidir, ça crée ce qu'on appelle un amidon résistant, et comme je vous en parlais dans l'épisode numéro 104, c'est effectivement des choses que les bactéries aiment bien. Donc bon, mon exemple est peut-être pas le meilleur, mais vous voyez l'idée un petit peu. Donc voilà, si vous n'avez aucun légume dans votre assiette, et particulièrement des légumes que les bactéries adorent, hein, genre poireaux, artichauts, topinambours, etc. Bon, je sais que c'est pas des choses qu'on mange tous les jours, mais voilà, si vous n'avez aucun légume dans votre assiette, c'est pas du tout une assiette qui sera intéressante pour votre microbiote. Ce qui veut pas dire que si vous mangez ça une fois, c'est la cata et c'est le drame, mais vous voyez l'idée quoi. L'idée c'est quand même d'avoir le plus de légumes possible dans vos assiettes au quotidien. Un autre élément qui pourrait faire partie de l'assiette la pire pour votre microbiote, c'est de la viande rouge grillée, par exemple au barbecue, ou de la charcuterie. Pourquoi c'est problématique ? Parce qu'en fait, ça va faire des composés que l'on appelle carcinogènes. Enfin, c'est des composés, vous voyez, quand la viande elle est un peu grillée, quand elle est brûlée. Et c'est aussi le cas avec la charcuterie. En fait, ça va venir nourrir des bactéries pro-inflammatoires du microbiote. Donc déjà, rien que les composés carcinogènes, c'est pas du tout intéressant, puisque c'est des choses qui peuvent potentiellement à terme et en grande quantité favoriser le cancer. Mais en plus de ça, tout ce qui est viande rouge, même si elle n'est pas grillée, hein, j'ai envie de dire, si vous mangez de la viande rouge à tous les repas, dans tous les cas, même si elle n'est pas grillée, ça va nourrir les bactéries pro-inflammatoires du microbiote. Donc si c'est une fois de temps en temps, bien sûr que c'est ok, mais si c'est trop souvent, bah, c'est un peu la cata, puisque si ça nourrit les bactéries pro-inflammatoires, comme leur nom l'indique, ces bactéries, elles vont favoriser l'inflammation du microbiote, elles vont déséquilibrer le microbiote, elles vont irriter la muqueuse intestinale, donc déjà c'est la porte ouverte à pas mal de soucis digestifs, mais pas que, puisque s'il y a de l'inflammation dans l'intestin, forcément ça se répercutera partout ailleurs, et donc bah, c'est aussi la porte ouverte à beaucoup de problématiques, de symptômes, mais aussi de maladies. On le sait aujourd'hui, c'est pas moi qui l'invente, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent aujourd'hui qu'une consommation excessive de viande rouge et de charcuterie, enfin et ou de charcuterie, favorise le cancer colorectal notamment. Donc voilà, forcément, déjà la viande rouge, je crois que les recommandations aujourd'hui c'est une fois par semaine maximum, donc ce qui est quand même pas beaucoup. Si vous en mangez trop souvent, déjà c'est pas génial, mais alors en plus si elle est grillée, comme on fait par exemple au barbecue, ou même grillée à la poêle, et bien là c'est encore pire, et si c'est de la charcuterie c'est encore pire aussi, puisque la charcuterie elle contient aussi beaucoup d'additifs, beaucoup notamment de nitrites, il y a souvent beaucoup de nitrites dans la charcuterie, alors ça c'est clairement pas du tout le meilleur ami de votre microbiote, ça c'est quelque chose qui va venir vraiment éliminer une grande partie des bactéries et favoriser plutôt des bactéries vraiment pro-inflammatoires. Donc voilà, on évite trop souvent tout ce qui est viande rouge, particulièrement si elle est grillée, et on évitera aussi la charcuterie. Un autre point qui serait vraiment pas terrible pour votre microbiote, c'est une assiette qui contient beaucoup de produits ultra transformés. D'ailleurs beaucoup ou pas beaucoup, parce que le problème avec les produits ultra transformés et ce qu'ils contiennent notamment, c'est-à-dire notamment des additifs, eh bien même en toute petite quantité, ça peut être super mauvais pour le microbiote. C'est ça qui est un petit peu compliqué à percevoir parfois, mais c'est que autant il y a certaines choses qui en petite quantité vont pas forcément faire du mal à votre microbiote et c'est pas dramatique. Si on reprend l'exemple de la viande rouge, voilà, vous en mangez une fois par semaine, bon, il n'y a pas de souci a priori. En revanche, les produits ultra transformés et notamment les additifs qu'ils contiennent, qu'on va voir un petit peu plus en détail, même une toute petite quantité de temps en temps, eh bien ça peut être complètement délétère pour le microbiote et pas que, hein, d'ailleurs, aussi pour le cerveau, pour la santé en général. Donc le problème des produits ultra transformés, déjà au-delà du fait que en général il y a zéro fibres dedans, puisque toutes les fibres ont été enlevées mécaniquement, et c'est pour ça que bah, du coup, c'est des produits qui se conservent hyper longtemps, qui nécessitent l'ajout de beaucoup de sucre, de sel, d'additifs, etc., pour essayer de reconstituer une espèce de produit qui se tient, alors que si on avait pris des aliments un petit peu plus bruts, on aurait pu, si je prends l'exemple, je sais pas, d'un gâteau, ou de... On va prendre l'exemple d'un gâteau, par exemple. Si on prend des aliments bruts, des choses qui sont le moins transformées possible, que l'on va mélanger ensemble, on peut facilement faire un gâteau, a priori. Hein. On prend des œufs, on prend de la farine, qui est déjà un aliment transformé, mais bon, on peut pas non plus éviter tous les aliments transformés. Là où c'est problématique, c'est vraiment les produits ultra transformés, puisque voilà, si on prend des aliments à peu près bruts ou peu transformés, on peut faire un gâteau facilement. En revanche, si on essaye de reproduire un gâteau avec des choses qui vont être par exemple de la poudre à la place des œufs, ou si on essaye de mettre que des choses qui vont un peu remplacer les aliments qu'on aurait utilisés de base, bah, il va falloir rajouter plein d'additifs pour faire en sorte que ça ressemble effectivement à ce qu'on cherchait à la base à obtenir. Et ça, c'est le cas dans plein de choses. Hein. Je vous cite le gâteau, mais je pense que le pire, c'est les cordons bleus. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu plusieurs documentaires sur la fabrication d'un cordon bleu. À la base, un cordon bleu, c'est de la viande, du fromage, de la panure et des œufs pour faire un peu le liant de tout ça. Enfin, il me semble, j'avoue que j'en ai jamais cuisiné de ma vie, mais de mémoire, c'est à peu près ça. Alors qu'aujourd'hui, quand on achète un cordon bleu du supermarché, en général, c'est des choses qui sont ultra transformées, puisqu'en fait, c'est même plus de la viande, c'est une espèce de reconstitution de morceaux de viande où ils essayent, à la place d'un filet de poulet, c'est justement une espèce de pâte bizarre qui a un petit peu de viande dedans, mais qui a aussi beaucoup d'additifs. Le fromage, ce n'est plus du fromage, hein, c'est des espèces de mélanges de, je sais plus comment ils appellent ça, des sels de fonte ou je sais pas quoi, enfin des trucs vraiment qui donnent pas envie. Dans des aliments comme ça, que l'on pourrait penser, à la base on se dit, bah un cordon bleu c'est plutôt bien et tout, sauf que oui, mais si c'est pas fait maison ou si c'est pas un truc vraiment de super qualité, ça reste des produits ultra transformés et donc il y a beaucoup d'additifs dedans. Donc au niveau des additifs, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Il y en a plusieurs, je sais que c'est hyper compliqué de s'y retrouver. Je vais essayer de vous donner un petit peu les grandes familles et en général vous les retrouvez sous la dénomination E plus un numéro. Par exemple les colorants qui sont ajoutés dans les aliments, en général c'est la catégorie E sans quelque chose. Donc E121, sans truc bidule. Les conservateurs qui eux vont empêcher le développement bactérien, ce sera les E200. Ensuite, on peut retrouver aussi des antioxydants, donc qui seront des E300, qui eux permettent aux aliments de ne pas noircir ou devenir, vous savez, rance à cause de l'oxygène. Ça leur permet aux aliments de garder leur jolie couleur. Et puis d'ailleurs, les antioxydants, on peut se dire, bah en soi, c'est intéressant les antioxydants pour la santé. Ouais, mais pas n'importe lesquels et pas dans n'importe quelles conditions. Parce qu'un antioxydant mal utilisé ou mal formulé peut devenir au contraire pro-oxydant. Donc c'est un peu là où ça se complique. Ensuite, on a les émulsifiants. Eux, ils sont quand même énormément utilisés. Eux, c'est la catégorie E400. 400 quelque chose quoi. Eux ils permettent de stabiliser une texture, en gros de faire un peu une texture gélifiée ou d'épaissir une texture justement pour redonner un peu la texture qu'on cherchait à imiter à la base. Et puis il y a aussi les exhausteurs de goût, ça c'est pareil, ils sont largement utilisés. Eux c'est la catégorie E600 quelque chose. Donc ils sont pas tous méchants, c'est E quelque chose. Il y en a qui sont plutôt inoffensifs, mais il y en a quand même énormément qui sont vraiment vraiment méchants pour le microbiote et pour la santé. Notamment un qui est quand même assez connu, c'est un émulsifiant, je crois, il s'appelle le polysorbate 80, et celui-ci, il est quand même impliqué dans beaucoup aujourd'hui de pathologies, beaucoup de problèmes au niveau du cerveau notamment, et c'est vraiment une catastrophe pour le microbiote, et en fait celui-ci, si vous regardez bien, vous le retrouvez dans beaucoup, beaucoup de choses, notamment dans beaucoup de soda, dans beaucoup d'aliments, donc celui-ci, il est vraiment pas génial, il y en a plein, hein, je pourrais vous citer, mais en fait je pourrais même pas vous faire une liste des pires parce qu'en fait chaque étude que j'ai lue qui mentionnait des additifs dangereux en mentionnait des différents. Donc en fait la liste elle est quasiment infinie, il existe des dizaines de milliers d'additifs différents et honnêtement je pense que la moitié voire 75% si ce n'est plus sont vraiment nocifs pour la santé et même en petite quantité. Donc la leçon derrière tout ça c'est que ils sont quasiment tous mauvais et qu'il vaut mieux les éviter au maximum. L'avantage, c'est que déjà, si vous consommez des aliments bio, il y a une grande partie de ces additifs qui sont interdits. Donc déjà, vous en éliminez une bonne partie et vous avez moins à décrypter les étiquettes. Mais ça ne veut pas forcément dire que si c'est bio, c'est absolument génial. Il y a aussi des additifs qui sont un peu controversés, qui sont autorisés pour l'instant dans le bio. Donc il faut quand même regarder un petit peu. Et là, pour le coup, le mieux, c'est vraiment de se renseigner, quitte à lire des études, acheter certains livres qui regroupent un petit peu les additifs. Je sais qu'il y a des petits bouquins qui existent ou qui regroupent tous les additifs et un peu leur toxicité. Donc l'idée, c'est d'avoir ce petit bouquin avec vous et de regarder un peu les étiquettes de ce que vous achetez. Parce qu'encore une fois, ils sont pas tous mauvais, mais quand même la grande partie est quand même très très mauvaise. Et là vous voyez j'ai par exemple sous les yeux un petit tableau qui regroupe les additifs dont il faut se méfier et il y en a mais une liste infinie, notamment certains qui sont neurotoxiques, donc qui vont être toxiques pour tout ce qui va être les nerfs, le cerveau, etc. Certains qui sont carrément cancérigènes, il y en a qui sont toxiques pour le système digestif, d'autres qui sont nocifs pour le système cardiovasculaire et rénal, il y en a d'autres qui sont allergisants, ça on n'en parle pas non plus assez, mais il y a aussi énormément d'allergies qui sont dues uniquement à la présence de certains additifs que le corps en fait ne reconnaît pas et du coup se dit mais c'est quoi ce truc, donc il déclenche toute l'artillerie il déclenche le système immunitaire pour éliminer cet additif et donc ça crée des dysfonctionnements et des allergies. Donc ça c'est quand même vraiment un gros problème aujourd'hui les additifs et malheureusement enfin il y en a vraiment dans quasiment tout, même des choses, encore une fois, hein, même des choses bio, enfin voilà, il faut vraiment regarder les étiquettes et idéalement essayer de les éviter au maximum, parce que encore une fois, même en petite quantité, ils peuvent être effectivement nocifs. Alors l'idée, c'est pas non plus de développer une psychose et de ne refuser de manger absolument tous les aliments qui contiennent des additifs, parce que déjà, on se retrouverait à pas manger grand-chose, ou en tout cas, il faudrait vraiment être prêt à cuisiner beaucoup soi-même, ce qui est très bien, mais je sais que c'est pas toujours possible, mais l'idée, c'est quand même de se renseigner sur ceux qui sont les pires et d'essayer de les éviter au maximum, sachant que vous allez toujours les retrouver à la fin de la liste des ingrédients, puisque c'est des choses qui sont mises en général en petite quantité, mais encore une fois, la petite quantité ne veut pas dire que c'est moins nocif. Donc faut regarder à la fin de la liste des ingrédients, vous allez avoir tous les E quelque chose, et le truc c'est que des fois, ils ont pas forcément toujours les mêmes noms. Des fois, ils vont avoir le E quelque chose. Des fois, ça va être le nom. Par exemple, le polysorbate 80. J'en ai une autre, c'est la carboxyméthyl cellulose de sodium. Par exemple, celle-ci, c'est la E466. Et donc, bah, vous voyez, il faut un petit peu chercher par soi-même. Parce que, par exemple, ce E466, eh bien, il est connu pour vraiment diminuer la quantité de mucus protecteur. Le mucus, vous le savez, je vous en ai beaucoup parlé. C'est quand même la première protection de votre muqueuse intestinale. Donc, si vous n'avez plus assez de mucus présent, bah, c'est la porte ouverte à l'inflammation, à l'irritation de votre muqueuse intestinale. Si la muqueuse fonctionne moins bien, vous digérez moins bien, vous absorbez moins bien les nutriments que vous consommez, votre système immunitaire va aussi fonctionner moins bien. Enfin, c'est vraiment, vous voyez, un peu l'effet ricochet ou l'effet domino. Donc, ces additifs, ils sont vraiment pas anodins. Et il y a beaucoup de symptômes et beaucoup de pathologies qu'on pourrait éviter si on consommait un petit peu moins de produits ultra transformés. Donc voilà, je sais que c'est pas toujours facile de les éviter, ces produits ultra transformés. Hein. Moi-même, ça m'arrive d'en consommer de temps en temps. Globalement, dans mon alimentation, moi, c'est plutôt des aliments soit bruts, soit transformés, mais pas ultra transformés. C'est là où se trouve un peu la limite, c'est-à-dire que, comme je vous disais, par exemple, de la farine, c'est un produit transformé, puisqu'on est parti des épis de blé et on est arrivé à la farine, donc on l'a transformé. Et bien sûr que, voilà, ça, c'est compliqué de l'éviter, à moins de faire sa farine soi-même. En revanche, vous voyez bien la différence avec un produit ultra transformé, où là ça va être vraiment des choses, bah, tout ce qu'on retrouve malheureusement dans les supermarchés et même dans les magasins bio, hein. Encore une fois, c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément la panacée. Donc l'idée, c'est vraiment de vous éduquer, de vous renseigner et d'éviter au maximum ces produits ultra transformés. Il y a des choses qui sont plus faciles à éviter que d'autres, hein. Il y a des choses, on le sait, que c'est ultra transformé. Par exemple, un soda jaune fluo, pardon, mais bon, il n'y a pas trop de questions à se poser. On se doute bien que c'est bourré d'additifs, c'est ultra transformé, voilà. Mais il y a des choses qui sont un peu plus subtiles et avec lesquelles il va falloir effectivement chercher un petit peu plus en profondeur. Donc voilà pour les produits ultra transformés. Et je conclurai cet épisode avec un autre point qui n'est pas forcément super bon pour votre microbiote, c'est d'avoir une assiette avec plein d'aliments différents. Ça, je vous en ai déjà parlé, je n'ai rien contre les assiettes avec plein d'aliments différents, ça peut être très intéressant, surtout si ce sont de bons aliments nutritifs, et voilà, comme ça vous apportez plein de nutriments à votre corps, et voilà, c'est plutôt, l'idée est plutôt bonne. Le problème, c'est que si on n'a pas une super bonne mastication, si on n'a pas une super bonne digestion au niveau de l'estomac, et si on n'a pas déjà de base un super bon microbiote, il se peut que ça fasse plus de mal que de bien. Parce qu'en fait, ça fait beaucoup trop d'aliments différents à digérer. Donc pour le corps, déjà, c'est plus compliqué, parce qu'il faut qu'il sécrète différentes enzymes, différentes sécrétions, etc. Il a plus de boulot. Et surtout, bah, si jamais la base n'est pas hyper solide et que vous digérez pas super bien, bah, ça peut complètement déséquilibrer votre microbiote, parce que si déjà vous ne mastiquez pas bien, il y a des morceaux d'aliments qui vont arriver non digérés dans l'intestin. Donc là, les petites bactéries, elles vont faire un peu un festin, mais du coup, un peu, enfin, beaucoup trop. Donc ça va vous faire aussi ballonner, ça va vous faire mal au ventre et des problèmes de transit, etc. Mais en plus de ça, ça peut créer aussi de l'inflammation, etc. Voilà, vous connaissez le processus de l'inflammation. Mais voilà, tout ça, il faut le savoir, c'est vrai que on a tendance à vouloir mettre le plus d'aliments possible parfois dans son assiette en se disant, bah comme ça j'amène le plus de choses possible à mon corps, à mon microbiote. Et encore une fois, l'idée est bonne, mais dans ces cas-là, il faut vraiment manger dans le calme, manger en prenant son temps, en mastiquant bien chaque bouchée, et il faut s'assurer que notre estomac fonctionne super bien, que notre intestin fonctionne super bien, et voilà. Donc c'est pour ça que je veux pas non plus diaboliser les assiettes avec plein d'aliments différents, vous savez, les bowls un peu où il y a plein de choses différentes. Mais si jamais vous mangez ça et que vous sentez qu'après vous digérez super mal et que vous vous sentez pas bien, bah c'est peut-être que c'est pas forcément ce qu'il vous faut. Il faut peut-être revenir à des choses un petit peu plus basiques avec deux ou trois aliments différents, et puis bien travailler sur la mastication, l'estomac, l'intestin. Et ensuite, bah peut-être que là vous pourrez vous faire des super grosses salades, des trucs avec plein d'aliments dedans. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas toujours un super cadeau pour le microbiote selon les situations. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Donc pour vous rappeler un petit peu la pire assiette pour la digestion et le microbiote, donc ce serait une assiette avec aucun légume, en tout cas aucune fibre, une assiette avec beaucoup de viande rouge grillée ou de la charcuterie, avec des produits ultra transformés et avec plein d'aliments différents. Et là, je sais que peut-être que vous vous dites, oui bah super, c'est le genre d'assiette que je mange jamais. Mais regardez quand même la prochaine fois que vous prendrez quelque chose, par exemple, soit à emporter dans un restaurant, un truc un peu fast-food où la qualité est pas super, ou même si vous prenez des choses au supermarché, que vous vous faites une assiette chez vous, regardez quand même, est-ce qu'il y a assez de légumes? Est-ce que vous n'avez pas beaucoup de produits ultra transformés? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'aliments différents? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'additifs dans ce que vous mangez? Et vous serez peut-être surpris de voir que, bah, en fait, si, c'est plutôt le genre d'assiette qu'on a tendance à manger, malheureusement, au quotidien. Et encore une fois, aucun jugement là-dedans, hein, je me mets aussi dedans. Il y a plein de choses que je fais pour lesquelles je me dis, là, c'est pas terrible pour ton microbiote ce que tu fais. Bah, parce que la vie, c'est pas toujours possible de faire absolument tout bien. Donc voilà, l'idée, c'est plus d'essayer de tendre vers ce qui est le mieux pour vous. En sachant que l'avantage, c'est que si vous mangez bien pour votre microbiote, il va vous le rendre. C'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir moins de symptômes, moins de maladies, plus d'énergie, etc. Donc ça vaut le coup quand même, hein. Ça vaut le coup de le chouchouter, ce petit microbiote, et ça vaut le coup d'essayer d'éviter de lui donner des choses qui sont carrément poison pour lui, et qui du coup bah, vont faire que vous allez être en moins bonne santé, plus fatigué, plus malade, etc., etc. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur bah, à quoi ressemble une assiette idéale et pire pour votre microbiote. Si vous aimez cet épisode et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si vous voulez me contacter, me poser une question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail. Je suis toujours ravie de répondre à vos questions. On se retrouve mardi prochain avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous et prenez soin de votre microbiote.